à votre santé. 175e émission de l'association citoyenne pour un des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM.
Bonjour.
Avec moi,
Daniel Cléo. Bonjour les amis du RVM.
Et Christian Max.
Et donc moi-même, Hélène Mazur. Pour ceux qui sont habitués, vous nous avez reconnus. Alors, la dernière fois, nous étions arrêtés, mais avant de reprendre la suite de notre débat de la dernière fois sur le déconventionnement des médecins et du problème de la régulation des médecins, je crois que Christian a quelques nouvelles du front, comme dit.
Oui, eh bien, je crois que nous sommes entrés dans une 10e vague. Puisque le taux d'incidence nationale, d'après Santé publique France, a bondi de 45% en 7 jours. On en est à 55. Le taux de reproduction est de 1,3, c'est-à-dire que l'épidémie progresse. Mais, on passe maintenant aux bonnes nouvelles, dans le même temps, les hospitalisations ont diminué de 20%, les admissions en soins critiques de 17%, et le nombre de décès, lui, en une semaine, donc, a baissé aussi de 36%.
Quelles peuvent être les explications ? Christian, tu as certainement des choses à nous dire là-dessus.
Eh bien, moi, je me souviens des propos de spécialistes au tout début de l'épidémie, dont le professeur Combes et d'autres avaient dit la même chose, qui avaient, dès le départ, décrit ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a d'abord affaire à des virus très virulents et très dangereux, et petit à petit, ils deviennent de plus en plus contagieux et de moins en moins virulents. Et on en est là.
Donc de moins en moins dangereux. Tant mieux, parce qu'effectivement, on entend tous autour de nous des gens qui ont attrapé la Covid.
Oui.
Et bon, ma foi...
Maintenant, on s'en aperçoit même plus, hein, quasiment.
Oui, d'autant plus que la caisse primaire d'assurance maladie ne fait plus ce qu'on appelle le suivi des cas contacts.
Oui.
Hein? Avant, quand on était touché, hop, tout de suite, on avait un message et il fallait donner la liste des cas contacts pour que, etc., de proche en proche, qu'on puisse protéger les uns les autres. Alors, donc, ça veut dire que...
Dans l'Oise.
Oui, oui, bien sûr, tu vas nous les donner.
Oui, dans l'Oise, on est à 72, donc au-dessus du taux national. La Somme, c'est 57, l'Aisne, c'est 53, voilà. Le record national, si j'ose dire, c'est le Bas-Rhin avec 122. Le Bas-Rhin, c'est Strasbourg. Hein. Le taux le plus faible, c'est le Tarn avec 20. Et alors, dans tous les départements, le record, c'est Mayotte avec 0. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont tous été malades. Et maintenant, ils sont tous immunisés quasiment. Quoi. Vu que là-bas, les structures médicales sont en dessous de tout.
Voilà, le corps s'est défendu tout seul.
Ouais. Voilà.
Ou ils ont appliqué des moyens, voilà, pour atténuer, et c'est tout. Bon, donc, on va dire que, ma foi, maintenant, ça rentre un peu dans la banalité, hein, du fait que ce n'est plus dangereux, que ce n'est plus mortel. Alors, mais... Ceci dit, sur le front, il y a encore d'autres choses à dire, je crois,
Christian.
Oui,
la grippe est toujours là.
Ah ben oui,
c'est vrai. Et on a même affaire à un nouveau variant, enfin, qui avait disparu depuis quelques années, depuis 7 ans, et qui revient faire un tour chez nous, et qui fait s'envoler le taux de malades en France en ce moment.
Oui, oui.
Et voilà.
Ça fait un moment qu'on le dit, hein, voilà. que la pandémie Covid diminuait, et par contre... L'épidémie de grippe remontait.
Oui, mais rappelons que ce sont des virus de la même famille, donc c'est pas étonnant.
Ah, voilà.
Ah, d'accord.
L'un prend la place de l'autre.
Voilà.
Il se bouscule.
C'est un arrangement, d'accord. Et est-ce que notre vaccin anti-grippe est valable pour cette nouvelle épidémie?
Mais vu que c'est un ancien variant qui refait surface, il y a des chances pour que ceux qui se sont fait vacciner réussissent à passer plus ou moins au travers.
D'accord.
Mais enfin, bon, comme toujours avec les vaccinations, je rappelle que la vaccination de la grippe n'est efficace qu'à environ 50%.
Hein. Ah bon ? Je ne connaissais pas ce fait. Ah oui, d'accord.
Justement parce qu'il y a énormément de nouveaux variants qui apparaissent sans arrêt. Donc on est vacciné pour ceux qu'on connaît déjà, mais pas pour ceux qui vont apparaître, comme pour le Covid. Hein. Et je crois d'ailleurs que ça nous avait été confirmé quand on avait reçu une pharmacienne de Crépy. Il nous avait dit la même chose aussi.
Donc finalement, il faudra être vacciné 3-4 fois dans l'année quoi, pour la grippe, contre la grippe.
Oui, mais il faut pouvoir disposer des nouveaux variants pour savoir comment les combattre, etc.
Voilà. Ouais.
Donc ça peut se faire que d'une année sur l'autre.
Ouais. Bon, enfin bon, vaccinez-vous quand même.
De toute manière.
Ouais.
Alors, on va avoir fini cette fois, je crois, avec les nouvelles du front. Et on va passer à, on va dire, des thèmes de débat d'actualité aussi. Donc, vous vous souvenez de tout le mouvement des médecins. Est-ce que vous avez des nouvelles, d'ailleurs, sur ce mouvement? Est-ce qu'ils ont obtenu quelque chose?
Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont partis en claquant la porte.
Bah oui.
Est-ce qu'ils avaient raison de le faire? Là, par contre, j'ai vu dans la presse des articles particuliers d'un grand quotidien national bien connu, qui dit que quand même, ils étaient peut-être un peu trop gourmands. Quoi.
Peut-être. Hein?
C'est qui négociait pour les médecins? C'est un syndicat ou c'est
oui,
l'ordre des médecins?
Il y avait plusieurs médecins de syndicats libéraux.
Oui.
Oui.
Ouais.
Bon.
Donc, alors le gouvernement leur proposait... Alors, comme toujours, il ne veut surtout pas de coercition, donc régulation. Et régulation comment? Par le biais d'une incitation financière. Ce qui se fait depuis des années et qui n'a jamais marché.
Bah oui.
Tiens donc.
Voilà. Et même ça, ils n'en ont pas voulu. Parce que c'était conditionné à la souscription d'un contrat d'engagement territorial prévoyant l'accueil de nouveaux patients, ainsi que la participation aux permanences et aux gardes du week-end.
Oui.
Bon, ils n'ont déjà pas le temps de recevoir tous leurs malades.
On leur demandait.
Oui, si on leur en demande plus, évidemment, ils ne vont pas accepter.
Ça, franchement, c'est comme d'ailleurs j'ai entendu pour les enseignants. Oui. Voilà, il y aurait une revalorisation s'ils en faisaient encore plus alors qu'ils sont épuisés.
Oui, donc ce n'est pas une revalorisation.
Non, c'est plus d'exploitation.
Oui. Donc il n'est évidemment pas question de remettre en cause la réalité du dévouement des médecins libéraux et de la lourdeur de leur charge de travail. Hein, mais par contre, bon oui, il semblerait que le gouvernement n'ait pas bien compris leurs problèmes. Mais c'est quand même un financement public par l'assurance maladie qui leur incombe. Donc il doit y avoir un équilibre entre droits et devoirs. Et pour l'instant, ils insistent beaucoup sur leurs droits, mais ils ne veulent pas entendre parler de devoirs. Donc ça pose quand même un problème démocratique.
Oui, je pense en particulier à la question des gardes. Hein, la permanence et les gardes, c'est des choses qui se sont perdues. Alors, je crois que ça s'est perdu petit à petit parce qu'il y avait de moins en moins de médecins, donc moins en moins de médecins qui faisaient les gardes et que ça revenait de plus en plus souvent.
Et de plus en plus lourd.
Voilà, et que donc on en revient toujours au même problème, hein. Ouais. C'est l'insuffisance du nombre de médecins.
Ouais.
Alors moi, j'avais juste évoqué la dernière fois, mais notre Fédération nationale des centres de santé avait élaboré une interpellation, une adresse aux candidats à l'élection présidentielle sur la question des déserts médicaux. Et donc, je ne vais pas tout vous dire dans cette adresse, mais en particulier sur cette question de régulation, voici ce qui était dit. Notre fédération, elle défend une vision globale du système de santé qui impulse d'abord la prévention. Il vaudrait mieux pas être malade. Il y a des pays qui font ça très bien. Et l'action sur les déterminants de santé... un maillage territorial des structures de soins de primaire. Et donc, dans son plan, elle met très clairement qu'il faut favoriser l'installation des centres de santé. Et pourquoi? Premièrement, ça permet de sortir du débat pour ou contre une obligation d'installation. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi ça nous fait sortir de ce débat. Il y a la deuxième proposition qui vient tout de suite, c'est qu'il faut développer un maillage national d'établissements qu'on appelle structure d'exercice coordonné territorial, en créant un service public. Et pour garantir, évidemment, un accès équitable aux soins sur tout le territoire. Et donc, il paraît que ça avait déjà été envisagé par la loi Touraine et que ça s'appelait le service public territorial de santé. Voilà, envisagé, mais pas du tout mis en œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce projet de loi ? C'est que ça permettait de lutter contre les inégalités de santé en favorisant une politique solidaire auprès des territoires plus vulnérables. Et en même temps, ça permettait de ne pas toucher à la liberté d'installation des médecins. Puisque, en fait, la logique, elle est là. Si il y a des établissements de santé tels que des centres de santé, un peu partout, avec forcément des annexes dans des zones rurales, eh bien, les médecins, ils auront le choix pour s'installer. Ils auront le choix. D'autant plus que nous, on sait très bien que ça va s'appuyer sur leurs aspirations. Qu'est-ce qui me dit les aspirations des nouveaux médecins ?
90% d'entre eux souhaitent exercer en salarié et non pas en libéral.
Et ça leur permet quoi, Daniel ?
D'avoir un salaire fixe et, puis, et des congés payés et puis une qualité de vie qui n'est pas du tout négligeable, voilà.
Temps de travail déterminé,
des horaires
et un temps de travail déterminé qui est la première chose parce qu'ils veulent avoir une vie, ils et elles veulent avoir une vie normale, entre guillemets, une autre vie que le...
Et de la formation, en recevoir et en donner en plus, et travail en équipe, etc., etc.
Et aussi de se consacrer à leur cœur de métier parce qu'ils sont débarrassés
de l'administratif.
Ouais. Voilà. Donc, là, on peut dire que le service les centres de santé, c'est vraiment toutes les... ils correspondent aux aspirations d'aujourd'hui. Et si c'est au niveau national qu'on conçoit un maillage du territoire, donc évidemment, là, on renvoie la responsabilité à l'État.
On a un exemple réussi de ce que ça pourrait donner. C'est le département de la Saône-et-Loire, qu'on cite souvent, mais il faut bien.
Voilà. Ce qui s'est fait à l'échelle départementale.
C'est ce qui a été fait, ça marche.
Comment l'État, qui collecte nos impôts toujours, ne pourrait pas...
Oui, et je ne pense pas que ce soit les vignobles de Saône-et-Loire qui aient fait venir les médecins là-bas.
Non.
Quoique.
on ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'était pour se mettre sur une autre logique. Une autre logique de santé. Au lieu de monter les uns contre les autres.
Eh oui. J'ai juste une petite info que vous avez certainement entendue. On va s'attaquer également aux intérimaires dans le milieu hospitalier. J'attends un petit peu des nouvelles et puis étudier un peu ce qui s'est dit.
Mais quel est le problème ?
Apparemment, réduire les intérimaires, les médecins intérims qui viennent de travailler dans les hôpitaux pour combler les trous. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler en intérim. Ils ont des repos comme ils veulent. Ils font une vacation ou deux. Après, ils sont en repos. Ils gagnent bien puisque l'intérim est beaucoup plus payé. Et puis, c'est à voir.
Ça, c'est le retour de bâton de si mal payer les... Mais ce n'est pas seulement mal payer les professionnels de santé de l'hôpital, c'est surtout leurs conditions de travail, puisqu'effectivement, ça leur permet une intermittence.
Ça, on y reviendra, on y reviendra.
Ouais.
Un autre retour de bâton, c'est un article que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Dans les Hauts-de-Seine, un site de consultation médicale est accusé de pratiques commerciales trompeuses.
Voilà.
C'est-à-dire que ce site promettait de mettre en rapport des patients et des médecins qui acceptaient de les recevoir tout de suite. Ce que juste le site oubliait de préciser, c'est que c'était hors conventionnement de la Sécurité sociale.
Et
donc les gens n'étaient pas remboursés et ils ne savaient pas quelle prise allaient payer.
C'est scandaleux.
Voilà le genre de pratique auquel on arrive dans la situation actuelle.
Il y aura des profiteurs.
Et oui.
Alors, moi, je voulais vous parler aujourd'hui d'un deuxième sujet.
Ce n'est pas Doctolib. Hein.
Non.
Non, d'accord. Un autre sujet. Ce matin, je discutais avec une de mes amies qui, finalement, on va dire, est aidante de son compagnon atteint d'une longue maladie. Et la question qui se pose, tant que la maladie peut être gérée, on va dire, dans le cadre familial, voilà, ça peut se faire, mais il y a un moment où elle atteint, elle dévore la vie et elle atteint un stade qui dépasse les capacités de l'aidante en question. Et donc, elle a fait un dossier, ce qu'on appelle APA. Qui sait ce que c'est que l'APA ?
Ah, avec Christian, je dis le premier mot, tu dis le deuxième. Allocation.
Personnalisée.
Et Hélène ?
Non, c'est toi qui dis
le troisième. D'autonomie.
Voilà. Voilà.
Donc, allocation personnalisée d'autonomie.
Personnalisée d'autonomie.
Voilà.
C'est donc, il faut savoir qu'on peut l'obtenir sous une certaine condition d'âge, c'est après 60 ans, et évidemment avec une certaine perte d'autonomie qui se mesure, voilà. Et donc, ça se traduit souvent par des prises en charge partielles ou totales, d'aide à domicile ou d'aide dans un établissement. Et donc, moi, mon souci, c'était cette personne aidante qui n'en pouvait plus. Et il faut savoir que l'aide à domicile, effectivement, peut effectuer des tâches ménagères ou l'aide à la toilette, mais ça ne fait pas toute une vie. Mais qu'elle peut aussi accompagner la personne malade lors de sorties, promenades, visites, rendez-vous. Ce qui veut dire que l'aidante ou l'aidant, eh bien, pendant ce temps-là, peut être libéré pour ses propres rendez-vous ou visites et respirer, en quelque sorte. C'est assez peu, mais c'est quelque chose.
J'ai eu un copain qui a eu son épouse qui avait Alzheimer. Il arrivait à déposer son épouse une journée par semaine, je crois, dans le bassin crayois. Et ça lui permettait de souffler. Et sa femme, pendant ce temps-là, faisait des jeux, des trucs comme ça, dans une salle spécialisée. Voilà,
à l'hôpital. C'était à l'hôpital.
C'était dans le cadre de l'hôpital. Hein. Ouais.
Alors, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait aussi... à l'hôpital de Senlis, cette possibilité, mais pour moi, c'était une demi-journée. Donc, on pourra peut-être approfondir cela pour une prochaine fois, parce que je crois que la question du répit pour les aidants, elle est fondamentale.
Comment aider les aidants ?
Voilà. Eh bien, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine séance. Chers amis auditrices, auditeurs, vous savez que notre émission peut être écoutée le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h, et bien entendu en podcast. Donc, on vous avait dit, puisque là nous avons terminé notre émission, mais qu'on peut vous faire des annonces, qu'une prochaine fois, nous allons inviter M. Jean-Pierre Mounet, qui est, tu peux repréciser,
le gérant de l'association de gestion du centre de santé.
Parce qu'il pourra nous expliquer toutes les nouveautés au centre de santé.
Où on en est, voilà. Hein,
au mois d'avril, il y a des nouveautés. Nous vous disons au revoir et à la prochaine fois.
Au revoir.